ferons-nous demain une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va reprendre un sujet qui me tient à cœur et qui est un sujet, on pourrait dire, transversal dans notre société, c'est le rapport à la technique. Alors, pour reprendre l'actualité du transhumanisme, on sait que dernièrement, le PDG de Tesla, Elon Musk, a mis une puce dans un cerveau humain. Alors, il ne s'agit pas encore, a-t-il dit, d'augmenter l'intelligence en introduisant des puces de mémorisation, mais il s'agissait de traiter simplement des personnes accidentées pour recouvrer des capacités qui auraient été perdues, notamment de mobilité, etc. Donc on est plus sur un élément mécanique et on peut souhaiter que tout cela marche. Alors le débat, évidemment, qui n'est pas celui-là, qui est celui de l'intelligence augmentée. On a entendu le médecin, entrepreneur, polémiste Alexandre, qui est une personnalité médiatique que l'on entend très souvent, et lui qui est un partisan, on peut dire, si je suis un peu méchant, un peu délirant sur le transhumanisme, il pense que le progrès de l'humanité est à la fois obligatoirement doit passer par cette augmentation due à des puces, et il n'en voit pas le danger, il n'en voit que des bénéfices, mais il nous prédit déjà une société de science-fiction dans laquelle il y aurait les gens qui seraient pucés, donc, avec les intelligences augmentées, et ceux qui ne le seront pas, donc, il envisage l'avenir sur des problématiques de ce type. Alors, on peut revenir en arrière et dire d'abord, est-ce que l'idée d'une machine qui serait plus intelligente que l'homme, c'est une thématique que j'ai déjà abordée ici et qui me paraît essentielle, et on va évidemment la répercuter sur le domaine qui est celui-là, qui est le nôtre dans cette émission, celui de l'urbanisme et d'une manière plus étendue au mode de vie et à la ville. Mais en fait, donc revenons sur ce sujet de l'intelligence augmentée. Donc, il y a une interview récente de Raphaël Antoven dans le journal du dimanche de cette semaine. Et Raphaël Antoven, qui a une position radicalement opposée à celle de Philippe Alexandre, où il dit que de toute façon l'intelligence humaine ne peut pas être mise en compétition avec l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle n'existe pas. Il y a simplement de la mémorisation, même si avec les nouveaux développements de l'IA, on a des raisonnements, mais ces raisonnements ne sont que des raisonnements déjà appris, et que il y a une limite indépassable. Donc il s'était confronté lui-même au moment du baccalauréat sur une épreuve de philosophie. Alors effectivement, la machine avait résolu la problématique qui avait été posée au baccalauréat, qui était sur le bonheur, et elle avait résolu en 40 secondes. Et effectivement, lui, il avait fait un devoir, mais c'était sans commune mesure, puisque l'intelligence artificielle avait fait une compilation, même si c'était assez intéressant et astucieux, mais évidemment ça ne peut pas tromper son monde. Alors le propos Le propos de notre philosophe, c'est de dire que il n'y a pas d'évolution de l'intelligence au cours des âges et que la culture est étale. Alors, le progrès scientifique est d'un côté, mais ce progrès scientifique reste dans des traductions technologiques, dans une accumulation du savoir, mais n'a aucune incidence directe sur l'intelligence et la réflexion. Donc ce qu'il dit, en prenant l'exemple de la philosophie, qu'en fait, lui n'en sait pas plus que les philosophes grecs et que on peut croiser les questions que font les philosophes grecs avec la philosophie allemande, par exemple, où aujourd'hui, donc le rôle du philosophe aujourd'hui n'est que de reposer les mêmes questions que on se posait, dans, en tout cas ce que l'on sait, ce sont les philosophes grecs, parce que nous avons des transmissions écrites, mais aussi on peut penser que les mêmes questions sont posées dans des civilisations dans lesquelles il n'y a pas les traces mémorielles par l'écrit, mais qui sont des civilisations orales, dans lesquelles le même niveau, évidemment, de pertinence, d'intelligence, de questionnement est étal tout le long de l'humanité. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à admettre pour certains scientifiques, parce que ils confondent ce qui est le propre de l'homme et ce qui est la connaissance. La connaissance étant la connaissance scientifique étant différente de justement de la réflexion philosophique et dans la mesure où elle est extérieure à l'humain. Alors la connaissance scientifique, c'est une découverte de la nature qui est effectivement une accumulation de savoir, mais qui est indépendante de l'homme. La nature se découvre petit à petit, et effectivement, ce savoir cumulé fait que on peut avoir, avec la connaissance, par exemple, de l'électricité, à la fin du 19e siècle, on a eu cette révolution qui est la révolution, évidemment, de la communication, qui a amené le télégraphe, le téléphone, ensuite la radio, la télévision, et puis évidemment Internet, le numérique, tout cela étant découlant de on peut dire la maîtrise de quelque chose qui existait indépendamment de l'homme, mais que l'homme rentre dans son patrimoine. Donc il n'y a pas une évolution intellectuelle, il y a simplement une connaissance accumulée, et les scientifiques sont justement dans cette progression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un lycéen connaît plus de savoir en chimie, physique, que par exemple que Hippocrate ou Galilée, puisqu'effectivement il est confronté à cette connaissance. Par contre, l'intellectuel artiste on peut dire l'écrivain, Mozart par exemple, Mozart, une fois qu'un musicien est mort, eh bien les musiciens en suivant ne sont pas, comme dans le cas de la science, en accumulation de savoir. Autrement, effectivement, comme on peut l'être avec la science, les musiciens aujourd'hui seraient supérieurs à Bach, à Mozart, évidemment, ce qui n'est pas le cas. Donc, l'artiste, l'écrivain, recommence, ou le philosophe, même s'il s'appuie sur ce qui a été écrit avant, ou dessiné, ou peint, ou bâti pour les architectes, bien effectivement, il n'est pas supérieur à cela, et il doit recommencer pour lui-même, on peut dire, l'histoire de l'humanité. Alors là où je voudrais en venir, effectivement, c'est le rapport qu'il y a avec l'architecture, et cette idée que le progrès de la science fait que les architectes d'aujourd'hui sont supérieurs parce qu'ils ont une connaissance technique qui est supérieure à leurs anciens. Alors, il est évident que quand les touristes visitent les bâtiments anciens, ils n'ont pas tellement cette impression, puisqu'ils visitent les grands bâtiments du patrimoine. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse à ce sujet, on peut dire que le patrimoine, on peut dire populaire, est le même que celui qui est le patrimoine, qui est celui des professionnels, celui que l'on enseigne dans les écoles d'architecture. C'est-à-dire le Parthénon, les églises gothiques, les chefs-d'œuvre de l'art classique sont visités à la fois par des millions de personnes et ils sont aussi les œuvres marquantes, ce qui n'est pas le cas effectivement dans tous les arts. Donc l'architecture étant l'art par essence le plus populaire. Fin de la parenthèse. Mais pour en revenir à la technique, par exemple, la profession d'architecte fait une formation continue. Alors la formation continue peut être tout à fait intéressante parce que dans un métier aussi diversifié au niveau des bâtiments, au niveau aussi des pratiques, il est intéressant que quelqu'un puisse avoir une formation complémentaire pour un sujet qu'il veut acquérir ou changer de mode d'exercice. Non, tout cela est, eh bien, ce qui est, à mon avis, plus grave et même inquiétant, c'est que cette formation professionnelle traduit l'esprit du temps et elle, en devenant obligatoire, c'est-à-dire qu'en fait, un architecte qui n'aurait pas cette formation ne pourrait pas exercer. Alors, dans certains métiers scientifiques, par exemple, les dentistes ont, du fait de l'évolution très rapide des produits qu'ils utilisent pour faire les plombages, etc., il est évident qu'ils doivent être en permanence au fait des évolutions technologiques qui ont été très importantes. Donc, c'est à peu près dans la plupart de ces disciplines assez pointues. Mais en ce qui concerne l'architecture, c'est assez paradoxal parce qu'on aurait de jeunes architectes qui posséderaient on peut dire, les modes actuels, je dirais même les lubies actuelles, et qui enseigneraient aux gens qui sont beaucoup plus aguerris qu'eux. Alors là, c'est quand même la nature même du métier qui est questionnée, c'est-à-dire que ce ne serait plus le métier artistique avec ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire on recommence l'histoire pour soi, et les bâtiments du passé, on peut les regarder, on peut regarder les maîtres anciens ou récents, c'est pas parce que on aura connu leurs plans et vu leurs bâtiments que on aura la même compétence, la même maîtrise, puisque il s'agit pas dans ce cas-là d'une connaissance technique accumulée, mais d'un art avec toutes les répercussions qu'il peut y avoir de ce métier. Donc là, on est sur une ambiguïté et je vais reprendre après la pause musicale cette réflexion sur la science et sur la technique et sur l'art.
Comme le gros hugsar ringen för den brotna.
Alors, la science, elle est, comme je vous disais à l'instant, cumulative. Alors, la technique, c'est quelque chose de différent. On dit souvent science et technique, mais les choses sont différentes. La technique, elle est évidemment, elle se sert de découvertes scientifiques, mais les progrès qui sont alors d'une manière étonnante, par exemple dans la médecine depuis un siècle, ou dans ce que je viens de dire, dans les éléments de transmission, mais dans le côté justement humain des rapports sociaux, le problème du progrès est une notion tout à fait différente. C'est pas parce que on va utiliser des techniques nouvelles que on aura forcément une amélioration. Alors, pour reprendre en architecture, on est sur l'ambiguïté totale, parce que à la fois ce discours d'une modernité et les propos, par exemple, de la direction de l'architecture disant que la génération actuelle a un coup d'avance sur les générations précédentes, c'est une guerre de génération qui est totalement stupide et qui avait été d'ailleurs initiée par ma génération 68arde et qui était une sorte du passé faisant table rase et nous sommes supérieurs à nos pères, ce qui est évidemment dans des domaines narcissiques totalement prétentieux et en plus de cela faux et dangereux parce que dans ces métiers, c'est justement l'apprentissage de l'expérience qui est essentiel et non pas l'utilisation des techniques nouvelles. Alors, ce que je vous disais justement, le paradoxe de l'histoire, c'est que à la fois on a ce discours de du passé faisant table rase et nous sommes les nouveaux, les meilleurs, et puis on dit oui, mais nous allons utiliser le bois, les techniques anciennes, la terre. Alors là, on fait un retour de millénaires en arrière, et dans ce retour, des matériaux biosourcés, avec une sorte à la fois de mépris du béton armé, des techniques de construction modernes. Quand je dis modernes, c'est celles qui sont arrivées à la fin du 19e siècle et pendant le 20e siècle. Et puis, on serait moderne parce qu'on utiliserait des techniques ancestrales qui serait, par on ne sait quel miracle tout d'un coup, paré de toutes les vertus. Alors, c'est un sujet dont j'ai déjà parlé, mais qui est tout de même central aujourd'hui, et les choses ne sont pas aussi simples. Il ne s'agit pas, parce que l'on va utiliser, parce que c'est la mode écologique, etc., de la terre ou du bois, sans que... On peut tout à fait faire des expérimentations, mais on n'est pas quand même sur des choses qui sont miraculeuses. Et si, justement, on se sert des expériences du passé, on peut se rendre compte que il ne faut pas tomber aussi dans une sorte de idéalisation infantile du passé, d'un passé très ancien par rapport à un passé qui ressort. Donc, il faut regarder les erreurs, mais aussi tout ce qui a été fait dans les années 50, dans les années 30, dans tout le long du 20e siècle, et qui me semble plus pertinent que d'aller chercher dans une sorte de monde disparu qui aurait été une sorte de paradis écologique, la vérité. Alors, pour reprendre la terre, la terre c'est très bien, mais enfin, si on la mouille, c'est-à-dire s'il y a une fuite d'eau, ça fond comme de la neige au soleil, et le bois, la semaine dernière, j'étais à Bordeaux-Rouge sur des bâtiments qui ont été, et des façades qui ont été réalisées il y a 5 ou 6 ans. Écoutez, on a mis du bois en façade, c'est très bien, oui, le bois, mais le bois, sous nos climats, ce bois, c'est assez catastrophique. On a des façades, on dirait des bâtiments très, très abîmés, très anciens, mais au mauvais sens du terme, des bâtiments dégradés. et qui n'ont que même pas une décennie. Le bois en extérieur, bon, ça demande à être réfléchi, sachant que il y a beaucoup d'inconvénients et on ferait bien dans ce cas-là de ne pas tomber dans des modes et des excès sans le recul. Alors, la technique, encore une fois, c'est pas parce que il y a des procédés actuels techniques qu'il faut forcément les utiliser. Par exemple, dans la manière de faire de l'architecture, c'est-à-dire le rôle de l'architecte entre dans la conception qui se faisait, on peut dire, dans un temps pas très ancien, avec un crayon et du calque, enfin sur du papier, on a aujourd'hui l'informatique. Alors la question qu'on peut se poser, quel est le progrès? Alors le progrès dans la manière de faire un bâtiment, si je prends par exemple des logements, eh bien les gens qui sont logés, ils n'ont un peu rien à faire que les bâtiments, ils aient été dessinés à la main, qu'ils aient été dessinés avec le logiciel Tartampion, puisqu'en fait, ce qui compte pour eux, c'est la qualité de leur bâtiment. Et si le logiciel a permis de faire des bâtiments, par exemple, plus étroits et d'une rentabilité, il n'en bénéficie pas, et ça peut être le contraire. Donc, dans le cas de l'élaboration d'un projet, ce qui compte, ce n'est pas la manière dont il était fait, mais c'est le résultat lui-même. Alors aujourd'hui, on est sur des dossiers d'architectes qui sont des dossiers d'images numériques et on oublie le réel et il n'y a plus ce rapport au réel et c'est quand même la réalité de ce dont on parle n'est pas dans des discours, n'est pas dans des images, mais uniquement dans la réalité bâtie et dans la réalité de ce bâti vécu par soit les habitants dans le cas du logement, et soit dans les utilisateurs dans le cas de bâtiments qui vont être les bâtiments autres que le logement, mais qui sont utilisés autant bâtiments scolaires, hospitaliers, bureaux, travail, usines, commerce, etc. Donc la question de la technique doit être ramenée uniquement aux bénéfices que l'on peut avoir et la technique d'élaboration, effectivement, dans ce cas-là, compte assez peu. Alors, non seulement elle compte assez peu, mais je pense qu'elle peut aussi avoir un effet négatif. Et dans le cas de cette architecture qui est à travers l'outil numérique, elle a fait perdre aux architectes le rapport de l'échelle, parce que l'écran d'ordinateur, même si c'est séduisant ne permet pas d'avoir les échelles, puisque les agrandissements varient, et on peut, je pense, avoir aujourd'hui des effets que l'on verra probablement dans quelques années, des effets négatifs, justement, de ces progrès techniques, dont tous les innovations ne sont pas forcément à utiliser. Alors, encore une fois, si la science augmente, les techniques, c'est un rapport qui est autre. Par exemple, dans des métiers artisanaux, on a des techniques, par exemple, on a des techniques qui ont été perdues. Il y a des techniques que l'on maîtrise moins. Bah, si on regarde les Égyptiens avec les bijoux, les émaux, certaines techniques ont été perdues, oubliées, et on a du mal aujourd'hui à refaire ou des objets Renaissance. Donc, la technique aujourd'hui n'est pas forcément évolutive, même si elle est dans certains endroits particulièrement remarquable. Donc ce rapport à la technique doit être dissocié du progrès scientifique, et on ne peut pas classer les métiers en fonction de l'utilisation technique. Alors, il s'agit évidemment de métiers artistiques, je parle de l'architecture, mais c'est pareil dans les formes d'art d'aujourd'hui. On peut revenir aux instruments anciens pour la musique sans oublier qu'effectivement on peut avoir des enregistrements numériques tout à fait étonnants en qualité, mais le progrès technique n'empêche pas d'avoir la maîtrise des outils anciens et des techniques anciennes. Et on a vu par exemple à Notre-Dame de Paris la charpente qui a été faite suivant les techniques du Moyen-Âge. Alors moi je ne suis pas un grand fanatique de ce genre de processus, mais ce que j'ai pu entendre, c'est que les élèves charpentiers qui ont réutilisé ces techniques anciennes, c'est-à-dire on s'abstient de se servir des outils électriques par exemple, et pour n'avoir que les outils de taille et à la main, eh bien c'était pour avoir justement une meilleure maîtrise, et que ce savoir-faire était retransmis dans les outils modernes et qu'on améliorait globalement la technique. Donc voilà, donc c'est une conclusion qui peut être optimiste, c'est que le retour, le regard sur les techniques anciennes améliorera justement les techniques à travers le numérique et autres, et on n'est pas dans un rejet d'un côté et une admiration folle de l'autre. Je vous souhaite une bonne semaine.